affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Nous avons aujourd'hui le bonheur de recevoir dans notre studio Yvan Broir, commissaire de deux expositions consacrées à l'œuvre du peintre Pierre-Yves Trémois de l'Académie des Beaux-Arts. Deux expositions bienvenues car Pierre-Yves Trémois est à la fois célèbre et méconnu. Je m'explique. Le simple énoncé de son nom fait naître à notre esprit ses œuvres au trait, généralement des corps enlacés dans un mouvement qui ouvre sur l'éternité. Or, ces dessins sont d'une telle pureté, ils sont si accomplis que, curieusement, on est conduit à en rester là, parce qu'ils nous ont rassasiés de beauté et que l'on redoute de briser le charme, d'interrompre l'extase méditative dans laquelle ils nous plongent. Trémois ne joue pas sur la frustration, en quelques traits, il donne tout, ou plutôt le croit-on. Car comme le démontrent les deux expositions qui lui sont actuellement consacrées, son œuvre est bien plus foisonnante et diversifiée qu'on l'imagine généralement. Et pour nous en convaincre, je cède aussitôt la parole à Yvan Broir. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes chargé de mission Arts et Sciences à l'Université Paris-Descartes.
Qui va devenir au 1er janvier l'Université de Paris.
Merci d'être venu à mon secours. Auteur de nombreux ouvrages sur les passerelles entre l'art et la science et donc conservateur de ces deux expositions. Et je précise que vous avez également rédigé le catalogue raisonné consacré à Pierre-Yves Trémois et dont nous avions déjà fait une émission voici quelques mois. Pouvez-vous donc d'abord nous présenter ces deux expositions et la façon dont elles peuvent nous introduire à l'immensité de l'œuvre de Pierre-Yves Trémois?
Alors, deux expositions, en fait, qui n'en font qu'une, et qui représentent une sorte de grande rétrospective de l'œuvre de Pierre-Yves Trémois, qui est né, comme vous le savez, le 8 janvier 1921, et donc qui a parcouru le XXe siècle, le début du XXIe siècle. Sa première œuvre, si l'on peut dire, il commence avec cela, c'est à 9 ans, le portrait de sa mère, qui d'ailleurs est exposé au Cordelier. Alors, pour reparler de ces expositions, en particulier des lieux qui les accueillent, ces lieux se situent rue de l'École de médecine, au 15 d'abord, le réfectoire des Cordeliers, qui est un des hauts lieux d'architecture de la ville de Paris et qui vient d'être totalement rénové justement par la ville de Paris et qui est mis à la disposition des universités de Paris. Et puis en face, au 12, dans le cadre de la présidence de l'Université Paris-Descartes, eh bien, il y a le musée d'histoire de la médecine qui est un des musées cabinets de curiosité les plus importants d'Europe. Donc deux lieux qui sont extrêmement chargés, qui sont magnifiques, bien que différents, et qui valorisent cette œuvre tout autant que l'œuvre de Pierre-Yves Trémois les valorise. Au Musée d'histoire de la médecine, nous avons décidé de présenter un aspect qui est relativement méconnu de l'œuvre de Pierre-Yves Trémois, et qui sont les grands livres illustrés, c'est-à-dire qu'il a fait un certain nombre de livres, 23 au total, au cours de sa carrière. Le dernier, je crois, a été réalisé en 1998, et qui sont des livres d'art, de bibliophilie extraordinaire, à tirage extrêmement limité. Donc ils sont présentés tous intégralement au Musée d'Histoire de la Médecine, accompagnés de lettres, alors de lettres qui sont assez émouvantes, de Monterland, avec lequel il a fait trois de ses grands illustrés, des écrits de Claudel, des photographies avec Fellini, puisqu'il a travaillé aussi avec Moa le clown, livre qu'il a co-réalisé avec Fellini, avec Marcel Jouhandeau, avec Louis Powels, avec également Jean Rostand, qui fut un de ses amis les plus intimes. Donc il y a un certain nombre de lettres, et notamment une lettre sur le suicide de Monterland, avant qu'il ne passe à l'acte et qui est envoyé à Pierre-Yves Trémoy. Donc c'est quelque chose qui est assez à la fois curieux, mais en même temps d'une grande importance littéraire et historique.
Alors si nous commençons par cette exposition-ci, comment commence cette aventure des grands illustrés ?
Alors les grands illustrés commencent pour Trémoy en 1945. Et je dirais son œuvre de maturité commence avec ce premier grand illustré qui est la Grande Meute de Vialard. Et cette Grande Meute qu'il réalise donc en 1945 marque véritablement le point de départ de l'énorme œuvre qu'il va accomplir aussi bien dans les grands illustrés que dans les autres domaines de sa production.
Là, c'est une œuvre de commande.
C'est une œuvre de commande. Et en fait, la plupart du temps, ce sont... Alors, on verra qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ce sont en fait les auteurs, certains auteurs eux-mêmes, qui vont venir le voir. C'est ce qui se passe en 1949, par exemple, avec Paul Claudel, qui vient le trouver avec son éditeur et qui lui demande d'illustrer ce qu'on appelait la jeune fille Violaine dans un premier temps, qui est devenue l'annonce faite à Marie. Et qu'il va réaliser. Puis ça va être Monterland en 1953, avec lequel il va participer à plusieurs éditions, avec le cardinal, alors Pacifae en 1953, qui est une très très belle édition, et puis le cardinal d'Espagne en 1955, et puis surtout aussi la guerre civile en 1964. Alors bon, il y aura aussi Marcel Jouandeau, il y aura surtout en 1957, les années 50 sont quand même, et début des années 60, extrêmement importantes et prolifiques pour Trémoy dans ce contexte des grands illustrés. Donc en 57, là on ne vient pas le solliciter, c'est lui qui va solliciter Jean Rostand. Donc il va aller à Ville-d'Avray avec un carton sous le bras et en même temps lui proposer ce qui va devenir le bestiaire d'amour, qui est une des œuvres les plus connues dans ce qui concerne les grands illustrés.
Et pour le coup, très différente de l'œuvre que j'évoquais en introduction. C'est là où on voit la palette extraordinaire.
Très différente, une palette extraordinaire, en effet. Et qui, avec des thématiques aussi tout à fait différentes les unes des autres. Ça sera ensuite Louis Powels en 1962, et puis bien d'autres encore dans les années suivantes, dans les années 80 par exemple, 85. Il y aura la rencontre avec Fellini au milieu des années 80 que j'évoquais tout à l'heure. Alors, dans les grands illustrés, Trémoy va illustrer des œuvres littéraires importantes, mais il n'a pas qu'illustré des œuvres littéraires importantes. C'est-à-dire qu'il est séduit également par l'aspect poétique. Et en fait, l'univers poétique le passionne. Et il va illustrer Mallarmé, Verlaine, Suarez, et aussi des auteurs plus anciens comme Pétrarque, Ovide, L'Art d'aimer, La Fontaine, etc. La Fontaine avec Paul Valéry et les annotations de Paul Valéry. Et puis, dans ces grands illustrés, il y a une autre part qui est celle des hommages. Et il va rendre hommage, en fait, d'abord à Galilée, parce que, comme on le verra peut-être par la suite, le microcosme, le macrocosme l'intéresse au plus haut degré. Donc, il va travailler sur l'homme, sur le corps de l'homme, mais aussi sur l'univers, un peu à la manière, en fait, de la démarche de la Renaissance. Et donc, on va avoir Galilée, puis il va y avoir surtout le très beau Dieu désordonné, qui est un hommage extraordinaire à Cranach, à Dürer, et puis viendra ensuite Cranach, etc. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, comme le bestiaire d'amour, par exemple,
dont il faut préciser la nature, parce qu'on pourrait penser que ça nous ramène à ses œuvres sensuelles, mais c'est autre chose.
C'est autre chose, oui. Donc,
il se penche, si je me souviens bien, sur la calligraphie,
Non, parce qu'il y a le bestiaire d'amour, donc ça, il ne faut surtout pas confondre, solaire. Et le bestiaire solaire. Donc, il y a bestiaire d'amour d'un côté, avec Rostand, et le bestiaire solaire qu'il va composer avec l'Imprimerie nationale, et qui est un véritable chef-d'œuvre lui aussi. Donc, il va faire aussi les mythologies avec Michel Tournier, le chant de la nuit, où il rend hommage, en fait, à Nietzsche en 1977. Et puis, il y aura aussi, et ça sera un petit peu le terme de toute cette démarche des grands illustrés, en 98, ce qu'il va appeler Brouillon de culture, qui est un livre énorme, où il y a 100 burins originaux qui reprennent quasiment eh bien, tous les éléments de son œuvre et de la plupart des autres grands illustrés.
Et de ses influences multiples.
Et de ses influences multiples.
De livres confluence, non ?
Alors, il ne faut pas oublier non plus l'Apocalypse de Saint-Jean, en 1960, qui est un grand illustré qu'il va composer avec Salvador Dali, mais aussi avec Léonore Fini, Mathieu, Buffet, Zadkine, et où il y aura 7 peintres qui vont entrer en résonance avec 7 écrivains. Et là, tous les grands illustrés sont à tirage extrêmement limité. Vous voyez, 200, 240 au grand maximum, 100, 150. Mais là, cet exemplaire en fait, de l'Apocalypse de Saint-Jean est complètement original. Il n'y en a qu'un.
Lorsqu'on se rend à l'exposition, que l'on feuillette le catalogue, on voit bien la palette extraordinaire de son œuvre. Notamment, vous évoquiez le premier d'entre eux, illustrant un livre de Vialard, La Grande Meute.
Où on voit encore une culture qui est extrêmement classique, un trait qui est classique et qui rappelle...
Durer, par exemple.
Qui rappelle les grands graveurs de l'histoire de l'Europe.
Mais avec quand même, déjà, parce que donc c'est une peinture avec des traits très ombrés, or on sait qu'un des traits caractéristiques de Trémois, c'est d'avoir refusé par la suite, dans de nombreuses compositions, toute ombre.
Oui. Notamment dans ses peintures.
Le trait se suffit à lui-même.
Oui.
Et d'ores et déjà, on voit son style naître, puisque certaines parties des gravures sont comme davantage éclairées, dépourvues d'ombre, ce qui attire le regard. Et dans l'enchevêtrement déjà des bras ou des pattes d'animal, il y a précisément...
Oui, oui.
Son style qui...
Oui, parce que l'idée, enfin, ce qui marque l'œuvre de Trémois dans tous les domaines, même dans le domaine de la sculpture, c'est que, bah, quelque part, il va refuser, pas toujours complètement, mais il va refuser, je dirais, le volume, il va refuser la lumière, il va refuser l'ombre... Voyez, enfin, pas la lumière, plus la couleur que la lumière, parce que ces tableaux sont lumineux.
Sont très lumineux.
Mais il y a cette notion de couleur. Alors parfois, bon, il va céder à des grands aplats qui sont rouges, cinabres, parce qu'une de ses grandes influences aussi, c'est l'Asie, et notamment le cinabre chinois. Et puis aussi des grands aplats qui sont des bleus nuits, des bleus très, très profonds. Mais dans l'ensemble, Trémois est un adepte du blanc. Et ses œuvres, il les veut à l'état pur, en quelque sorte, qui sont basées sur le trait, sur la pureté du trait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux expositions, nous avons repris les deux tolérances de Trémois, les deux couleurs qu'il utilise parfois en aplat, qu'on voit dans La Passion, par exemple, qui sont le rouge. Et donc, on s'en est servi pour colorer certains socles, par exemple, et puis aussi pour l'ensemble des grands chevalets et des panneaux, ce bleu profond que j'évoquais tout à l'heure. Pour qu'il y ait cette correspondance permanente, en fait, avec ses ambitions picturales.
Ce que nous connaissions, certains des portraits qu'il a fait d'artistes qui font partie de ses références privilégiées, on découvre aussi ses talents de portraitiste. Je pense notamment au portrait de La Fontaine,
oui.
Pris dans le volume, particulièrement impressionnant, et dans un style qui est, voilà, je ne sais pas quel.
Oui, il y a un certain nombre
de
portraits.
De l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on en est, ou si ce n'en est pas, en tout cas, ça donne cette impression.
Vraie
rupture par rapport à l'idée qu'on s'en fait.
Et notamment le portrait de profil de Monterland qui est assez extraordinaire, qui a été dessiné, qui a été gravé, etc. Et puis de bien d'autres encore.
Alors, par-delà la diversité des thèmes, est-ce qu'il y a un fil rouge identifiable ?
Ben, on l'évoquait tout à l'heure, ce fil rouge, c'est le trait, en définitive. Le trait qu'on va retrouver partout. Donc, on le retrouve, bien entendu, dans le dessin, parce que ce qu'on propose aussi dans l'exposition, et notamment celle des cordeliers, que je n'ai pas encore évoqué, et où là, on va aborder tous les autres aspects de l'œuvre de Trémois, c'est-à-dire le dessin, la gravure, le burin, les eaux-fortes, mais aussi les fusains. Il y a une part qui est très importante chez Trémois pour le fusain, qui l'estime beaucoup être un élément très fort, si vous voulez, de relation avec celui qui va contempler le tableau. C'est présent aussi dans la sculpture, et notamment dans les fameux bronzes polis, où on trouve toujours ce souci du trait. Trémois, c'est le trait, en quelque sorte. Et également, qu'on va retrouver dans les céramiques. Donc, aussi dans les pièces d'orfèvrerie, parce que Trémois, en fait, n'est pas qu'un peintre. C'est un artiste... J'irais multifacette. Alors bien entendu, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on le connaît essentiellement par le trait des lithographies qui ont été diffusées très longtemps dans les années 60, 70, etc., eh bien ce trait, il est omniprésent dans toutes les formes d'art, que ce soit sculpture, que ce soit la céramique, que ce soit l'orfèvrerie, ou encore les dessins, les gravures, les peintures, quelles qu'elles soient.
Et au plan de la thématique, au-delà de la signature picturale, j'ai le sentiment, même à travers cette œuvre qui traverse le siècle, de voir les inflexions d'une pensée tournée quand même, avant tout, vers l'inquiétude métaphysique. Est-ce que je me trompe ?
L'œuvre de Trémois, c'est l'interrogation permanente. L'interrogation permanente sur les hommes... sur le monde, sur le devenir, les rapports entre le microcosme et le macrocosme, ce qui le rapproche en fait d'une de ses sources d'inspiration les plus importantes et qui est celle de la Renaissance européenne. Et donc, avec Trémois, il y a cette inquiétude, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au devenir du monde. Et on le voit, par exemple, dans un certain nombre de représentations, que ce soit des tableaux, ça apparaît dans toutes les formes de son art, de ce singe, qui est un peu le miroir de l'homme, qui regarde l'homme, qui parfois... Oui, et donc il y a une sorte, si vous voulez, c'est vraiment le miroir. C'est le miroir de l'homme, comme disait Coppens, cet incontournable ancêtre qui était le singe. Donc il y a un peu cette conception darwinienne là, qui surgit en permanence. Et il y a cette inquiétude, en fait, du singe devant les frasques de l'homme. Au travers des guerres, au travers de tout ce que l'homme peut avoir de négatif. Bon, ce qui ne veut pas dire que Trémois est pessimiste, parce qu'il y a aussi un aspect, un pan complémentaire, si vous voulez, qui est lié à l'optimisme, à la vie. Donc les enlacements, par exemple, du désir, de l'enlacement, dont est initiée la vie, en quelque sorte, la naissance, etc. Donc il y a cette dichotomie, cette ambivalence permanente, voyez, chez Trémois. Et ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'il n'y a pas forcément chez lui, comme je le disais, ni de pessimiste, ni d'optimiste, mais véritablement une interrogation permanente sur toutes les facettes de l'homme. Et donc, il a été aussi extrêmement sollicité. Et lui-même les a sollicités par les scientifiques. Il a côtoyé beaucoup, on évoquait tout à l'heure Jean Rostand, mais aussi des scientifiques. Il a, avec les débuts de l'ADN, par exemple, avec il a été véritablement au cœur de toutes les innovations et elles apparaissent. L'homme aux cellules, par exemple, le couple aux cellules, etc. Bon, qui sont des noms en fait d'œuvres. Eh bien, ça apparaît en permanence. Voyez, et donc, il ne faut pas, comme le font parfois certaines personnes, se limiter à l'œuvre de Trémois sur un premier niveau, sur un premier degré, celui des couples enlacés, de l'homme, de la femme, etc. Mais aussi toujours cette interrogation qui est sous-jacente, qui est permanente et qui intervient parfois de manière extrêmement ténue, parfois de manière beaucoup plus visible. Donc il y a une œuvre qui est une œuvre profonde et qui met en équation, je dirais en permanence, l'art et la science. Et en même temps, qui évoque tous les grands problèmes métaphysiques.
Vous avez raison de le souligner, et ce qui est d'ailleurs frappant, c'est lorsque l'on met en regard ces fameux couples enlacés qui ont fait sa célébrité, grand public, et le bestiaire d'amour dans lequel il illustre Rostand, ou d'autres encore, on sent que le sujet n'est pas tant le couple, l'érotisme ou la sensualité du couple, que ce foisonnement de vie, puisqu'on le retrouve également dans des accouplements de crapauds, de libellules, et dans certaines d'entre elles, la présence à la fois de l'être humain et d'un sexe, pour souligner une sorte de continuum.
C'est-à-dire qu'il y a une vision globale. Exactement. Il y a une vision globale de l'univers, une vision globale, en fait, à la fois. Le monde, c'est les hommes, c'est les animaux, c'est toute la nature, c'est un ensemble. Et ça, c'est tout à fait, comme vous le disiez, perceptible dans des œuvres des grands Fusains qui sont magnifiques. Il y a toute une série qu'on avait d'ailleurs exposée en Italie qui s'intitule « Comme des insectes géants » où là, il y a ce croisement entre, je dirais, l'amour animal, l'amour humain. Et donc, nous faisons tous partie, en fait, d'un même monde, d'un même univers.
De ce principe vital, fut-il violent d'ailleurs, parce que... Ce que je veux dire par là, c'est que les accouplements d'animaux donnent une nouvelle coloration à son œuvre. Il n'y a pas d'un côté l'un et l'autre. Tout est
fusionnel.
Dans un foisonnement vital, dont il faut peut-être préciser, parce que lorsqu'on dit qu'on peut à la fois trouver des insectes et des hommes sur les mêmes images, il n'y a pas, comme dans des rêveries sombres, surréalistes, d'effroi. On n'est pas dans le registre de l'effroi.
Pas du tout.
On est plutôt dans le registre de la célébration de la vie.
De la célébration de la vie.
C'est-à-dire que ces insectes ne sont pas effrayants.
Non.
Ils sont proches de nous.
Ils sont proches de nous et ils sont même parfois en communion avec nous, en quelque sorte. Et ça, il y a des lettres, par exemple, de Jean Rostand qui l'expriment parfaitement et qui montrent à quel point il y a une pertinence de l'observation, en fait, chez Trémois.
Vous avez parlé de son inspiration asiatique qui vient de loin, puisque je crois que c'est venu d'une première illumination en visitant.
Lorsqu'il avait 15 ans.
Voilà, le musée Guimet.
Le musée Guimet.
Et donc, de l'importance d'emmener les gens voir des expositions.
Complètement.
Pour qu'ils aient des illuminations.
Et donc l'Asie et le Japon sera pour lui véritablement une base d'inspiration extraordinaire, notamment au niveau du trait. Hein, quand on voit les portraits, en fait, des maîtres japonais du XIIIe siècle, par exemple, c'est assez extraordinaire. Mais en même temps, il y a, comme on disait tout à l'heure, ce sentiment qu'il a d'appartenance à la culture européenne et aux grands maîtres comme Mantegna, etc., mais surtout après de la Renaissance. Et on évoquait Dürer tout à l'heure, auquel il rend hommage. Cranach aussi, mais pour d'autres raisons. Ça, on pourra éventuellement l'aborder si vous voulez.
Oui, l'abordons.
Hein, mais Cranach, en fait, c'est pas quelque part sa tasse de thé au niveau esthétique.
Ça se sent un petit peu, d'ailleurs.
Hein, et d'ailleurs, bon, il a écrit un certain nombre de textes là-dessus. En tournant un peu en dérision ces femmes rebondies, etc., qu'il y a dans Cranach, mais qui, d'un autre côté, le fascine complètement. Et c'est pour ça que dans ses grands illustrés, il rendra aussi, au même titre que Dürer, peut-être pas tout à fait au même titre, mais hommage à Cranach. Donc les maîtres de la fin du Moyen-Âge, de la Renaissance.
Il y a une pointe d'ironie.
Il y a cette pointe d'ironie.
Parce qu'il y a de l'humour dans l'œuvre de Trémois aussi.
Hein, complètement. Et il y a la suite royale, par exemple, qui est exposée au Cordelier, où il reprend en fait des grands témoignages de l'histoire de France, avec des clins d'œil permanents. Alors il y a des clins d'œil, il y a un humour qui est assez extraordinaire, par exemple, quand il rend des hommages. Alors on expose, par exemple, au Cordelier, on expose les hommages. Alors il y a hommage à Toulouse-Lautrec. Bon, il y a l'hommage à Dürer. Il y a l'hommage à Ingres, Et là, c'est assez particulier, ça je vous invite à aller la voir. Il y a cet hommage à Ingres où on voit Ingres. Ingres avec une sorte de femme qui peut ressembler à l'odalisque. Voyez. Et puis, il y a ce clin d'œil qui n'est pas perceptible au premier degré. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, si on regarde d'un peu plus près, que l'odalisque, que la femme, que porte Ingres sur ses genoux, a trois bras. Mais on ne les voit pas tout de suite. Et en fait, c'est quelque part, c'est l'évocation de la contestation célèbre. On disait que Ingres avait fait une odalisque qui avait deux vertèbres en trop, etc. Et lui, à sa manière de lui rendre hommage, si vous voulez, il lui rajoute un troisième bras qui n'est absolument pas perceptible du premier coup d'œil. Vous voyez ?
Oui, il est très joueur.
Il est très joueur. Il est très joueur et en même temps, bon, c'est cet humour aussi, mais toujours un humour teinté d'élégance qu'il caractérise.
Dans ces allers-retours entre l'Asie et surtout le Japon et l'Europe, il faut peut-être évoquer aussi son goût de la calligraphie, qui est un autre trait reconnaissable en
la calligraphie, oui.
C'est-à-dire que beaucoup de ses œuvres comportent des parties calligraphiées. C'est-à-dire qu'il introduit pas seulement dans les grands illustrés, mais dans son œuvre peinte.
Dans son œuvre peinte.
Il y a des mots qui jaillissent avec cette griffe particulière, comme s'ils avaient été griffés sur la toile.
Oui, oui, c'est ça qui donne aussi cette dimension supplémentaire, voyez, à l'œuvre. Alors là, on sent très bien les influences asiatiques, où la calligraphie est extrêmement importante. Et on évoquait tout à l'heure le bestiaire solaire. Eh bien, dans ce bestiaire solaire, il va travailler sur la calligraphie, sur les différents types d'écriture qu'il peut y avoir à travers le monde. Et il va y associer à chaque fois un animal qui va travailler au burin de manière assez extraordinaire. Et là, quelque part, il y a une volonté de réconcilier calligraphie et typographie, par exemple, avec cette œuvre du bestiaire solaire, qui est assez exceptionnelle, il faut le
reconnaître. Oui, car c'est également un hommage, si j'ai bien compris, au typographe de l'imprimerie nationale.
Totalement.
Qu'il considérait, à juste titre, comme des artistes à part
complètement.
Entière.
Et en fait, quand il fait intervenir, là, si on revient à la peinture, dans ses tableaux des phrases, eh bien, où ce sont ses propres phrases, alors parfois aussi qui ne sont pas dénuées d'ironie ou d'humour, où ce sont des phrases célèbres, ou des phrases de personnalité célèbre. Et en fait, il y a cette connotation qui est assez spécifique, je crois, dans l'art du XXe siècle. Alors, ce qui est intéressant aussi, je crois, si on parle plus de généralité, parce que là, on vient d'évoquer une spécificité, c'est que Trémoy, c'est une écriture. Comme Mathieu, dont il était ami proche, Buffet, ami proche, ce sont des écritures qui ont marqué le XXe siècle. Ils ont marqué le XXe siècle. On reconnaît un Trémoy comme on reconnaît un Bacon, comme on reconnaît un Mathieu, comme on reconnaît un Buffet. Et en définitive, je pense que Trémoy passera à l'anthologie, en fait. Il y a ce caractère anthologique. C'est une écriture du XXe siècle qui est peut-être, à l'heure actuelle, à contre-courant, comme l'était Buffet, d'ailleurs, il y a encore quelques années. À contre-courant, parce qu'on est quand même, depuis déjà une décennie, deux, trois décennies, plus dans l'art conceptuel, dans l'abstraction, etc.
Oui,
sur les performances, sur toutes ces choses-là. Et donc là, la figuration, qu'il assume totalement et qu'il a toujours assumé, et ce type de figuration, c'est Trémoy. Et Trémoy, en fait, c'est une écriture singulière, on reconnaît un Trémoy, c'est ça qui est extrêmement important, et je crois que la qualité des grands artistes, elle se fonde là-dessus. Même dans les impressionnistes, par exemple, on reconnaît un Monet, on reconnaît, il y a cette écriture qui est singulière, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on s'aperçoit quand même qu'à l'heure actuelle, malgré tous les courants conceptuels, abstraits, etc., il y a, surtout dans des temps qui sont difficiles, comme à l'heure actuelle, et on le voit bien au niveau des visiteurs des expositions, une sorte de retour, si vous voulez, je ne dirais pas un classicisme, mais de retour à des valeurs dans lesquelles les gens se reconnaissent. Parce qu'ils étaient, il faut le dire, un peu perdus. Vous voyez, dans ces notions d'abstraction, de conceptualisation, etc. Vous voyez.
Et là, oui, mais d'ailleurs, il se réfugiait dans les expositions consacrées aux grands maîtres.
Oui.
En réalité.
Oui, 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 oui.
Ce qui est spécifique chez Trémois et déroutant peut-être pour un critique d'art contemporain, c'est que précisément, c'est un figuratif contemporain qui est par ailleurs un génie. Donc évidemment, il n'est pas dans le flux. Mais s'agissant du public, je pense que...
Mais je pense que l'histoire le reconnaîtra dans l'anthologie du XXe siècle, compte tenu de sa singularité et de la qualité de son écriture.
C'est même probablement déjà fait, non ?
Oui, 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 mais il faudrait que ce soit encore beaucoup plus...
Il y a peut-être autre chose qui le dessert, c'est que c'est quelqu'un qui, en s'inscrivant dans différentes traditions picturales, en revendiquant de s'inscrire dans, dans des traditions picturales, en reconnaissant sa dette au maître du temps passé, fait preuve d'une énorme humilité.
Complètement.
Il est singulier parce qu'il est génial, mais il ne prétend pas avoir puisé quelque chose au s'être auto-engendré génie.
Non, 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 il reconnaît en fait ses sources.
Ses dettes.
Voilà. Il les reconnaît et en même temps, il les assume totalement. Et il arrive quand même à se dégager des influences en arrivant, si vous voulez, à une singularité, une spécificité d'écriture, comme on vient de le dire tout à l'heure.
Vous étiez présent, bien sûr, aux inaugurations des expositions. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façon dont le public présent s'approprie ces œuvres ? C'est toujours intéressant de voir comment...
Il y avait beaucoup de monde à l'inauguration.
Il y avait trop de monde pour que...
Les Cordeliers sont un espace qui est quand même très grand, fait près de 800 mètres carrés. Donc il y a de larges espaces, malgré le nombre d'œuvres qui est présenté, l'importance des œuvres. Il y a des tableaux qui font 4 mètres sur 3, pratiquement. Il y a des statues qui sont plus que grandeur nature, qui pèsent 400, 500 kilos. Enfin, c'est des choses, il y a des œuvres qui sont extrêmement imposantes. Mais en même temps, lors de l'inauguration, les gens sont venus au fur et à mesure. Il y avait plusieurs centaines de personnes. On a avoisiné les 500 personnes à l'inauguration. Mais tout ça s'est déroulé sur 3 heures dans un espace relativement large. Et Trémois qui a été présent, complètement, à la fois intellectuellement et physiquement, pendant 3 heures, en fait, a reçu les hommages de générations différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont âgés, mais il y a aussi un certain nombre de gens jeunes qui sont venus le voir et qui le reconnaissent véritablement comme un maître. D'ailleurs, beaucoup, je dirais naturellement, l'ont appelé maître, ce qu'il exècre. Il ne supporte pas. Mais, quelque part, bon, il tenait beaucoup à cette rétrospective et je pense que l'accueil du public a été tout à fait à la hauteur de ce qu'il pouvait attendre.
Écoutez, nous nous en réjouissons. Je vous pose quand même une dernière question parce que je voulais vous la poser tout à l'heure et que même si là on semble être arrivé à la conclusion, je m'en voudrais de partir sans vous la poser. N'est-il pas un peintre de l'incarnation ?
C'est-à-dire, précisément ?
Eh bien, quelqu'un qui nous présente les grands enjeux du temps et de l'être, mais incarné dans de la chair, dans de la matière, c'est-à-dire un peintre du retour au réel, mais au réel sublimé. J'y pense parce que vous parliez de l'art conceptuel, où, en quelque sorte, le cérébral répond au cérébral. Ici, il y a un détour par
l'incarnation, par tout l'incarnation, à fait. Et en fait, ça se voit. Parce que, Trémois, son œuvre, c'est une œuvre de chair. C'est une œuvre qui est essentiellement, on évoquait tous les aspects, mais qui est basée sur l'homme. Mais sur l'homme vivant, en quelque sorte. Et on revient à ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les grandes interrogations, à la fois du pessimisme, mais en même temps toujours teinté d'optimisme, il est quand même, même s'il s'interroge, fondamentalement positif, en quelque sorte. Mais c'est vrai aussi que ces interrogations reposent véritablement et toujours, on le voit d'ailleurs dans son œuvre, sur l'homme, sur la chair, sur la réalité des choses.
Écoutez, je crois que ça ne peut qu'inciter nos éditeurs à se rendre dans ces deux expositions dont je rappelle, parce que je ne crois pas qu'on l'ait fait depuis le début, on a parlé des lieux, mais oui. On n'a pas donné les dates.
Alors jusqu'au 26 octobre, jusqu'au samedi 26 octobre compris, et alors le musée d'histoire de la médecine est ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de midi à 18h. Et les cordeliers sont ouverts tous les jours, y compris le dimanche, de 11h à 19h.
Écoutez, merci beaucoup Yvan Brouard.
C'est moi qui vous remercie.
Allez-y.